tout son but, sa Torah, c'est Mashmaout la Zehout. Donner une signification à l'identité. C'est ça la grande révolution de Manitou. Donner une signification à l'identité. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne ce que c'est que l'identité de l'homme. C'est qui cet homme? Et donc par extrapolation, c'est qui cet homme et cette femme qui vont être le Nézer Abria, qui vont être l'objectif de pourquoi il y a eu la création. Ça a l'air? Donc aujourd'hui, on va parler de Ish Veisha Betorato Shel Manitou. Ça a l'air? On y va? C'est parti? Yala, on y va. Tov, Ardavar Rishon. Davar Rishon, quand on parle de Ish Veisha, il y a quelque chose avec lequel on va revenir dessus très souvent. A Ish Veisha, Em Zachar ou Nekeva, ils sont masculins et féminins, également au niveau linguistique. Et c'est quelque chose qui n'existe qu'en hébreu. Il n'y a qu'en hébreu, ça c'était un grand. Je lui dis, c'est pas Manitou qui a inventé l'hébreu, mais un des grands chidushim de Manitou, c'est de faire remarquer que l'homme et la femme en hébreu sont véritablement le masculin et le féminin. C'est-à-dire que vous savez qu'en hébreu, comment on fait le féminin d'un mot? On rajoute hey, yeled, yalda, ish, isha. C'est-à-dire que si ish, c'est ish, son féminin, ça doit être isha en termes de prononciation, en termes d'hébreu. C'est pas le cas dans les autres langues. Femme, étymologiquement parlant, le mot femme n'est pas le féminin du mot homme. C'est-à-dire, de la même façon, le mot man, son féminin, normalement, en termes de règles de grammaire anglaise, ça devrait être manes. Mais on dit woman, ce qui est d'ailleurs de l'allemand plus que de l'anglais. Woman, c'est un homme avec un utérus. Parce que woo, c'est womb à l'origine. Donc c'est un homme avec un utérus. Bon, mais en tout cas, ce n'est pas le féminin de. Anthropos, en grec, guinéa, ça n'a rien à voir. En araméen, on va dire, comment on dit un homme en araméen? Gever. Comment on dit une femme en araméen? Et ne me dites pas geveret. Mar, mar, c'est monsieur. C'est pas un homme. C'est pas l'homme. C'est-à-dire, homme, c'est gever. Geveret, c'est en hébreu moderne. En hébreu moderne, on a pris gever, on l'a féminisé en araméen, on dit iteta. Rien à voir avec le mot gever. En d'autres termes, il n'y a qu'en hébreu que behemet, le masculin, et le son féminin correspondent à ish veisha. Évidemment que ça va avoir une importance, on va le garder, on y reviendra un petit peu plus tard. Botaï, je pense que vous m'avez déjà moins entendu, vous avez déjà entendu énormément de talmidim de Manitou, et donc il y a plein de notions que vous connaissez déjà, sur lesquelles donc, on va pouvoir avancer rapidement. Il faut les rappeler, mais on ne va pas forcément replonger dedans parce que vous les connaissez. Le livre de Bereshit était l'un des grands combats de Manitou, redonner au texte sa valeur. Et donc, il nous ramenait vers l'histoire de la création pour qu'on en comprenne bien un sens profond. Quel est le sens profond de la création? C'est que cette création n'est pas terminée. C'est-à-dire, il y a dans le livre de Bereshit, dans le premier chapitre, 6 jours de création qui sont tous finis. Pourquoi ils sont finis? Eh bien, parce qu'il y a le verset de conclusion de chacun des jours. C'est-à-dire, Vayerev, Vayevoker, Yom Echad. Vayerev, Vayevoker, Yom, comment tu dis? Sheni. J'ai juste pas entendu, c'était pas un piège. Yom Sheni. Sauf que, ça ne devrait pas être Yom Sheni. Tu devrais dire Shtayim. On a été à l'Ulpan, on a vu que Echad, après c'est Shtayim. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Yom Sheni? Alors tu aurais dû dire Yom Rishon. Yom Rishon, après Sheni. Asma. Nous, les amis, vous avez une idée? Non? Rien? Vous avez le droit de dire. Hein,
c'est
quoi?
Yishraim, c'est pas rabbi.
Non? Enfin, c'est pas rabim. Oui, mais c'est comme ça qu'on dit deux. Sauf que deux vient après un. Donc normalement après echad, c'est shtaim. Là, tu me dis sheni.
La question est sur le 1, pas sur le
2. Pourquoi ?
Le 2,
le 3, c'est shtichi, on va venir. Non, ben ça marche pas. Nahan, tu arrêtes. Ah, tu dis, il y a plus de sheni, shtichi, réveillé, ils vont plus dans ce sens-là. Donc, ah, j'ai compris. On aurait dû appeler le premier Rishon, en fait. D'accord ? D'accord, tu as raison, ma question en fait elle n'est pas sur le chéni, elle est sur le rishon. Mais malasot, que le verset de Echad il vient avant le verset de Shtaim ou de chéni, Shlishi Revi. Ah bon, c'est pas shoot. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, il n'est pas peur. C'est sûr ? Vas-y. Yom chéni, c'est ayom a chéni, chez ou Echad. Vayom a shlishi, c'est ayom a shlishi, chez ou Echad. Vous êtes avec moi ? C'est-à-dire que chaque jour, il est Echad. Ou Shalem Bimino. Il y a un premier Echad, ensuite il y a un deuxième Echad, il y a un troisième Echad. Chaque jour se suffit à lui-même, il est entier. Seulement, c'est une autre facette de la réalité. Mais dans tous les cas, les six sont terminés. Et finalement, on arrive à ce septième jour. ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי כל מלאתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי קדשותו, כי בו שבת מכל מלאתו אשר ברא אלוהים לעשו, אין יפמח כה, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, ce qui veut dire tout simplement que le septième jour n'est pas terminé. Ok, jusque là tout est clair? Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propre du septième jour est de vouloir se terminer. Et donc, notre réalité dans ce monde, c'est la recherche du perfectionnement. La recherche de ce qu'on va appeler à Ashlama. C'est ça tout le rôle de notre monde. Et qui est celui qui porte cette recherche-là ? Eh bien, c'est l'homme. Car parmi toutes les créatures de ce monde, le seul qui n'est pas terminé, c'est l'homme. Ah oui, l'homme n'est pas fini. Comment je sais qu'il n'est pas fini ? Ben parce qu'il y a marqué dans le projet de la création de l'homme, « Na'ase Adam betzalmeno kidmoten ». On est dans les versets du livre de Bereshit. « Na'ase Adam ». Or, dans la Torah de Kabbalah, on nous enseigne que le terme « Asiya », ça veut dire « perfection ». C'est-à-dire lorsque dans la Torah est marqué quelque chose a été fait, en fait, ça veut dire qu'il a été parfait. La asot, ça veut dire c'est bon, il n'y a plus rien à refaire. Okay? C'est la asot. Donc ça, c'était le projet. Naase Adam betzalmeno kidmoten. Sauf qu'au final, dans la réalisation concrète de l'homme, qu'est-ce qui a marqué ? Vaivra. Que l'homme n'a pas été asouï, mais il a été nivra. Ah, donc ça veut dire que c'est pas fini. Et donc, ça veut dire que l'homme n'a de cesse de vouloir continuer à se perfectionner. Et on peut le voir très simplement. Les amis, il ne suffit pas de... Enfin, ce n'est pas la peine d'être Manitou. L'homme d'aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a absolument rien à voir avec un homme d'il y a 1000 ans. Et il n'a rien à voir avec un homme d'il y a 2000 ans et d'il y a 3000 ans. C'est pourquoi il n'a rien à voir. Au niveau biologique, bien sûr que c'est la même chose. C'est-à-dire, au niveau biologique, si on pouvait faire une machine à remonter dans le temps, je pense qu'il n'y aurait pas de problème qu'un homme d'aujourd'hui qui rencontre une femme d'il y a 2000 ans, il puisse quand même avoir des enfants ensemble. C'est-à-dire, biologiquement parlant, il n'y a pas d'évolution. Ça prend énormément de millions d'années pour qu'il y ait une mutation qui va faire quelque chose. Mais au niveau de son identité, l'homme d'il y a 2000 ans n'a rien à voir avec l'homme d'aujourd'hui. Alors que le chat d'il y a 2000 ans et le chat d'aujourd'hui, au taux d'avant. Le chien d'à l'époque faisait le même ouf-ouf qu'aujourd'hui. Rien n'a changé pour lui. Mais l'homme n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il a tout le temps ce besoin de se réinventer parce qu'il sait que ce n'est pas fini. Et ça se voit... Parce que, quelle est la caractéristique de l'homme par rapport à l'animal ? La parole ? Pourquoi la parole ? Les animaux, ils parlent entre eux ?
Conscience.
Ah, moi, j'ai vu tous les Disney. Je peux t'assurer que les animaux, ils parlent entre eux, la merdine. La conscience, C'est-à-dire avoir conscience d'eux-mêmes. Qui te dit que les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes? Il y a plein d'études qui sont faites que lorsque tu laisses un animal tout seul, il ressent la solitude, il se laisse dépérir, il se... Il y a quelque chose.
Pour sortir de son... Un homme, il peut se demander si c'est un homme.
Ah, tu dis, se poser la question...
Je ne dis pas, est-ce que je suis un chat, est-ce que je suis un chien? Il s'habille le chien.
Tu sais.
Donc c'est la conscience.
Tu le sais.
Non.
Moi non plus. Donc viens, on parle pas de trucs qu'on sait pas. Il y a, au 19e siècle, il y a un livre, un roman, c'est pas un livre historique, un roman qui s'appelle Le Chaînon Manquant, qui a été écrit par un auteur anglais, je ne me rappelle plus le nom, qui mettait en scène qu'il avait trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme. On est au 19e siècle, on est juste après le best-seller de Darwin, et donc il y a plein de romans qui ont été écrits à ce moment-là. Et le pitch est très simple, il y a un aventurier qui est parti dans une tribu, machin, nan, nan, il a retrouvé le chaînon manquant. Et il le ramène à Londres. Et tout le monde l'étudie sous toutes les coutures, et personne n'arrive à décider. Est-ce que c'est un animal, ou est-ce que c'est un homme? C'est mamache au milieu. Et donc dans le livre, à un moment donné, le mec il décide qu'il faut trancher, et il voit que les gens ils veulent pas trancher, ils disent, bon finalement, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et donc il dit, non, je suis obligé de faire un acte. Et il tue ce chaînon manquant. Et là, il le tue devant tout le monde. Et il dit, maintenant, vous allez être obligé de me juger. Si c'est un animal, j'ai tué un animal, je dois rembourser le prix du lavage. Mais si je viens, si c'est un homme, j'ai tué un homme, vous devez me juger et me condamner pour ça. Et donc, pendant tout le livre, il y a les dihonimes, il y a les débats, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un animal? Au final, il est décidé que c'est un homme. Lama, parce que il s'habille. Dans toutes les cultures humaines, quelles qu'elles soient, il y a toujours eu des vêtements. Alors attention, le vêtement, ça peut être le costume trois pièces, le monocle, ça peut être aussi les peaux de bête, ça peut être des peintures de guerre qu'on met sur le visage, sur le corps. Ça peut être un collier simplement qu'on met autour du cou. L'homme chané. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est ce besoin qu'on a de rajouter quelque chose à la nature.
Ah ben, moi, j'ai vu tous les Disney.
Ouais.
Il y en a plein qui sont
habillés. Tu parles des animaux? Ah, ouais. Ah, les animaux, vadaille. Vadaille. Il y a pas que dans les Disney, il y a des fois à Tel Aviv aussi. Ah, des fois, à Tel Aviv, il y a des pauvres petits caniches qui sont certainement extrêmement maltraités. On leur change de sweater tous les deux jours. C'est terrible. En vrai, le seul animal qui ressent le besoin de rajouter quelque chose par rapport à son idéal naturel, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'il y a cette tendance de dire « Anilo shalem, je dois l'acheter metatsmi. » Agav, c'est une mitzvah. Britamila. La première chose que je fais, c'est bah, finalement la façon dont je suis sorti au niveau naturel, zelotor, il faut faire un petit tikkun. Et cette dimension de la recherche de la hashlama, disait Manitou, c'est le propre du monde, de la création, de l'homme qui doit remplir ce rôle. D'accord? Maintenant, au-delà de l'homme, il y a quelqu'un qui ressent plus encore que lui ce besoin de Hashlama, ce besoin d'arriver à perfectionner les choses, c'est la femme. Je ne parle ici pas de monsieur face à madame. Je parle ici de dimension du masculin par rapport au féminin. Alors, je pourrais être très, très chauviniste et dire, bah oui, évidemment, quand tu prends une femme qui ouvre un placard plein de vêtements, quelle est la phrase qu'elle dit ? J'ai rien à mettre. Vu que c'est toi qui l'as dit, ça passe, ça fait pas sexiste. Ça adhère. Maintenant, je sais pas si BMF, toutes les femmes, elles font ça, je sais pas s'il n'y a pas des hommes qui font ça aussi aujourd'hui, c'est très possible. Mais ce sentiment de j'ai besoin de créer quelque chose en plus, évidemment qu'il est plus présent chez la femme que chez l'homme, c'est elle qui donne la vie. C'est-à-dire le sentiment de vouloir porter la vie, de vouloir amener à quelque chose de nouveau, c'est évidemment naturellement plus présent chez la femme que chez l'homme. Alors vous allez me dire, oui, mais attention, là tu es en train de me dire, Besofo Shel Davar, les animaux aussi, ils veulent se reproduire. Est-ce que donc c'est pareil, eux aussi, ils ont le besoin d'eux? Non. Il y a une grande différence entre Pérou et Révou. La Torah nous demande de faire Pérou ou Révou. Ça veut dire en français Pérou. Pérou. Pas le Pérou.
Fructifier.
Fructifier, ça vient du mot prix. Et Révou.
Multiplier.
Rav, Arbé. Maintenant, venez, on sort du français. Parce qu'on étudie Manitou. Donc Manitou disait que traduction égale trahison, évidemment. Prix, ça veut dire que c'est une valeur. Il y a un RR. Rare, c'est de la quantité. Donc quand tu dis Pérou ou vous, c'est que tu veux qu'il y ait qualité, qualitatif et quantitatif. La reproduction pour la survie de l'espèce, c'est vous. Il faut qu'il y ait plein d'animaux, il faut qu'il y ait des hommes qui remplacent les vieux hommes. Ça a l'air. Ah ben, nous, ce qu'on nous demande, c'est de faire Pérou pour vous. De montrer la qualité qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas seulement la reproduction de l'espèce. La valeur qu'il y a de donner la vie à un nouvel individu. C'est-à-dire, tout ceci, cette dimension de vouloir l'Hashlim et Atzmenu, eh bien, les amis, la réalité de la hit-avout, c'est-à-dire de cette tendance à toujours vouloir aller plus loin, ça porte un nom dans la Torah de Manitou, et d'ailleurs pas que dans la Torah de Manitou, parce qu'il récupère ça de Torah Takabala. D'ailleurs, c'est un truc qu'on n'avait pas dit la semaine dernière, mais vous savez comment il s'appelle, Manitou? Le Rav Léon Yehuda Léon Ashkenazi. Et d'où ça lui vient son nom Ashkenazi? Non, il n'était pas Ashkenaz, mais c'est vrai que il y a très 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 longtemps, les ancêtres de la famille... Non, c'est à chaque fois que tu t'appelles Ashkenazi, Tzarfati, machin, ça veut dire que tu venais de là-bas. C'est-à-dire, mais pas toi, il y a Asra. Donc non, chez Manitou, il n'était pas du tout Ashkenaz. Par contre, le nom de famille Ashkenazi lui vient parce que ses ancêtres, c'était ni plus ni moins que le Harizal. C'est-à-dire, Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi. C'est-à-dire, donc il a puisé dans toute sa Torah, Torah Takabala, et dans la Torah de Manitou, comme dans la Torah Takabala, évidemment, cette réalité de Hit Avut s'appelle Toladot. Pas comme nous on appelle ça les engendrements. Toladot, c'est la volonté de perfectionner le monde. Elle est toledot ashamaim ve'aretz ve'ibaran. Le mot toldot, toladot, apparaît dans la Torah combien de fois? Non, pas dans la Torah, excusez-moi, autant pour moi, dans le Tanakh. Combien de fois apparaît le mot toldot dans le Tanakh? Celui qui est le plus près, il a gagné. Comment tu veux? Combien tu dis? Balance un chiffre. Combien de fois ça apparaît, le mot toldot, dans tout le Tanakh? 2? Toi tu dis 13?
25.
5, 5 sur toi. 26, ok, yala. 55. Y a pas... Les amis, ça apparaît 10 fois. C'est toi qui gagne. 10 fois toldot. Sauf que, il n'apparaît que 2 fois entier. Entier, c'est-à-dire Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Tav. En Ktiv, Malé. Il apparaîtra tout le reste du temps, les 7 autres fois, en Ktiv, Chaser. Il manquera un Vav. Sauf une fois, donc 6 fois, il manque un Vav. Et une fois, il manque les 2 Vav. Lorsque le Ktiv est Malé, ça veut dire que tout le potentiel de la Hitavut, tout le potentiel de du perfectionnement est en place. Lorsqu'il en manque un, ben c'est que tout n'est pas là. Lorsqu'il manque les deux, c'est rien ne s'est encore dévoilé. Donc celui où manque les deux, c'est Elé Toledot Ishmael. Il semblerait que pour l'instant, ils n'ont pas encore véritablement montré ce qu'ils pouvaient faire. Mais il y a deux fois où il y a marqué de manière malée, c'est Ele Toledot Hashamayim Ve'aret Be'ibaram, les engendrements, on a dit les Toledot du ciel et de la terre, la création du monde. Et la deuxième fois, c'est dans le livre de Ruth, où on nous dit Ele Toledot Paaretz, c'est la généalogie de la famille messianique, qui nous amène jusqu'à David. C'est-à-dire ? Donc cette réalité-là de Ish Ve'isha qui sont là pour Le'ashlim et Abria, eh bien, c'est, on va dire, le projet numéro un de la création. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des fois où il y a marqué dans la Torah « Vatar, Vateled ». Quand une femme dans la Torah tombe enceinte, des fois il y a marqué « Vatar », elle est tombée enceinte. Mais il n'y a pas toujours marqué. Eh bien, Manitou disait, là où il y a marqué « Vatar », ça veut dire que là, c'est une naissance importante pour l'Aïtavut, pour l'Ashlama. Là où il n'y a pas marqué « Vatar », c'est une naissance en plus. D'accord ? Alors, allons-y. Donc, très bien. C'est-à-dire que l'Ashlim, la plus grande Ashlama, c'est lorsque, justement, Aish ve'Aisha, Tzachim l'Ashlim echad et hasheni. C'est quand même extraordinaire. Le rôle de l'homme dans ce monde, c'est quoi ? On a dit, c'est-à-dire que l'Ashlim est à Olam. D'accord. Mais c'est quoi son rôle ?
Servir Hachem ?
Avodat Hachem. Ça, c'est une réponse de religieux. D'accord ? Les religieux, tu leur demandes qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde, ils te disent on doit faire des mitzvot. Servir Hachem, Avodat Hachem. C'est pas notre rôle. On doit le faire, évidemment, je suis pour les mitzvot. Mais le rôle du peuple juif, particulièrement, et de l'homme en général, c'est la Da'at et Hachem. La Da'at et Hachem. Ça, c'est pas la même chose. J'ai eu une discussion une fois avec... c'est pas moi qui ai eu la discussion. Moi, j'étais spectateur de la discussion. J'étais avec mon fils, il avait 8 ans. Et on revenait de la vieille ville. Et on sortait en vélo de Shar Tzion. Et au moment où on sort en vélo de Shar Tzion, il y a une voiture qu'on croise. En fait, moi, je suis sorti, mais la bouteille d'eau qu'on avait sur le vélo, elle est tombée. Donc, mon fils est parti la chercher. Et au moment où il prend la bouteille, il y a une voiture qui sort. Et la voiture a mal engagé son virage. Et donc, il est obligé de s'arrêter. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu Charles Sion, mais c'est impossible. Et donc, le chauffeur, le conducteur, sort de la voiture pour voir s'il touche le mur ou pas. Et à ce moment-là, il sort et il est nez à nez avec mon fils. Et il a eu peur de... Peut-être il l'a touché. Alors, mon fils bug quand il le voit sortir. Et là, le conducteur lui dit « T'as besoin d'être Hamoun ?» Et il bug toujours. Alors il s'avance comme ça, il dit « T'as besoin d'être ?» Et là, mon fils le regarde et lui dit « Rachafti shatamet. Je pensais que t'étais mort. » Et oui, parce que venait de sortir de la voiture le Rav Shmuel Eliyahu, le grand rabbin de Tzfat. Or, mon fils, il a lu toutes les BD sur le Rav Mordechai Eliyahu, qui n'est autre que son papa. Or, le Rav Shmuel, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et donc, quand il a vu sortir, il s'est dit, mais attends, dans le livre, il dit qu'il était mort, le Rav Eliyahu. Alors, il dit, bah oui, mon père, il m'a raconté l'histoire du Rav Eliyahu, et il m'a dit qu'il est mort. Et là, le Rav Shmuel, il le regarde avec un grand sourire, et lui dit, non, Psader, ton père, il t'a raconté les histoires du Rav Eliyahu. Moi, je ne suis que Shmuel. Et il n'a pas compris. C'était le fils. Alors il lui a dit, mais tu as connu le Rav Eliyahu ? Et là il lui a dit une phrase qu'évidemment mon fils n'a pas compris mais qui est fantastique. Il lui a dit, tu sais, le Rav Eliyahu, mon papa, il a écrit plein de livres. Et je voudrais te dire que grâce aux livres du Rav Eliyahu, et continue à lire les histoires et les livres du Rav Eliyahu, grâce aux livres du Rav Eliyahu, j'ai appris comment la Avod est achetée. Mais grâce au Rav Eliyahu, j'ai appris la Da'at et Hashem. Ah oui, c'est autre chose. Quand tu étudies la Torah de X ou Y rabbin, alors tu apprends comment on sert Dieu. Mais quand tu es au contact du tzaddik, tu apprends à connaître Dieu. C'est ma choix. Et donc, notre rôle, c'est la Da'at et Hashem. Et comment on fait pour la Da'at et Hashem ? Il faut la Da'at. À col. Ben oui. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam dans Hilchot Teshuvah, chapitre 10 ? Que midat ha-da'at tiye que midat ha-ahava. Im me'at me'at ve im arbe arbe. Un couple qui se connaît depuis 3 mois, est-ce qu'il peut dire qu'il s'aime ? Bien sûr que non, parce qu'ils ne se connaissent pas. Un couple qui est ensemble depuis 30 ans, ah oui, là ils peuvent commencer à s'aimer. Kichol shta yodea, azata oev yoter. Talo yodea, comment tu peux aimer ? Je vois que je suis avec un groupe de taglites et qu'on les amène comme ça, tu sais, sur une vue panoramique incroyable sur le Kinneret, machin. Ah, la photo et tout. Tu vas dire, elle est belle, hein, la terre d'Israël. Tu dis, ouais. Ah, vous l'aimez, Israël ? Ah, ouais, on l'aime, Israël. C'est mytho. Mytho, qu'est-ce que tu l'aimes ? Israël, c'est quoi ? C'est Frischmann, c'est le Kikar Netanya, c'est tout, c'est ça. Si tu connais pas, tu peux pas aimer. Et plus tu connaîtras, plus tu aimeras. Donc c'est quand même fou que le rôle de l'homme, ce soit de la date et Hachem, la date et ta colle, et il peut tout connaître, sauf lui-même. C'est terrible. C'est-à-dire, mon rôle à moi, c'est de connaître, mais s'il y a bien un truc que je ne peux pas connaître, c'est l'ami. C'est fantastique. Alors, vous avez remarqué que tant qu'on n'a pas inventé cet instrument incroyable qui s'appelle le miroir, la seule partie de l'homme que moi, je ne peux pas voir, c'est mon visage. Alors, l'irot est à panim chez lui. Est à pnim chez lui. Mon coude, je le maîtrise, c'est bon. Mais à panim, c'est terrible. C'est-à-dire que, aussi loin que je puisse aller dans ma connaissance du monde, ani, lo yodea et etzmi. Alors, comment je peux connaître Dieu ? Qui m'a créé moi ? Et donc, ben voilà, malasot, Akadosh Baruch Hu, pour ça, il m'a coupé. Eh oui. Quel est le verset le plus dramatique de toute la Torah ? Si vous deviez me dire quel était le verset le plus dramatique de toute la Torah. Il y en a plein, hein, des versets durs. Ouais ? C'est ballot. Adam et Chava qui sortent du Gan Eden, c'est un verset difficile. Mais pourquoi c'est pas le plus dramatique ? Parce que on va y revenir. On va même aller plus haut. Et Lama, si je dis que quelque chose est mal, c'est pas bien. C'est mal. Mais en vérité, si je dis de quelque chose que c'est mal, est-ce que ça veut dire que c'est fondamentalement pas bien ? Qu'est-ce qui est plus grave ? De dire que quelque chose est ra ou de dire que quelque chose est lo tov ? Le verset le plus dramatique de la Torah, c'est lo tov. Akadosh Baruch Hu va nous dire, après avoir créé toute la création, après avoir porté un jugement sur toute son œuvre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Lo tov. Lama, Eyot Adam Levado. C'est l'otov. C'est pas ra. C'est pire. En tov, Sham. Alors que jusqu'il y a 2 secondes, il avait dit Vayar et kol asher asa, veine, tov meod. Nahon, kol mashe wasa. Ça, c'est tov meod. Mais on a dit que l'homme, il avait été simplement créé, nivra. Donc pas complet. C'est l'otov. Lama l'otov. Eyot Adam Levado. C'est quoi l'évado ? Seul. Tout seul. C'est ça que tu veux dire ? Alors, tout seul, dans la Torah, ça ne se dit pas l'évado. Ça se dit bodel.
Perdu ?
Non, pas avoud, mais bodel. Par exemple, on a dit dans la Megillah de Echa, Echa Yashva Badal, Ahir Rabatia. Bodel, c'est tout seul. L'évade. Quelqu'un fait du jardinage ? Mm-hmm. Ouais. Comment on appelle quand tu veux faire pousser un petit arbuste et qu'il n'est pas encore assez solide ? Alors tu mets un bâton collé à lui. Un tuteur. Comment on dit en hébreu ? On fait du jardinage en hébreu. c'est bien connu. Lavoud. Levad, levado, ça veut dire collé à lui-même. Ils sont deux, je vous rappelle qu'ils sont deux. Zachar et Nekeva, Baraotam. Donc ils sont deux. Avalem collé à Zelotov. Pourquoi Zelotov? Ils ne peuvent pas se connaître. Donc à quoi ça sert? Ils ne peuvent pas arriver à cet Ashlama, ni de lui de elle, ni de elle de lui. Donc ça ne sert à rien. Et donc à ce moment-là, il va falloir faire ce qu'on appelle la Nessira, il va falloir couper en deux pour permettre à l'un de compléter l'autre et à l'autre de compléter l'un. Seulement deux secondes. Au moment où il y a cette opération, Manitou disait tout le temps, premier chapitre de la Torah, harmonie fantastique, tout se passe bien. Dès que tu arrives à la Zougiyout de Adam Vechava, c'est le Balagan. Vous avez bien Balagan. Parce qu'entre M. Khatoul et Mme Khatoula, à Koltov, la Maharechet Yachassim entre les deux, elle est préétablie. À savoir, c'est une Maharechet Yachassim, c'est une, un lien animal, très simple. Voilà, on a besoin de reproduire l'espèce, tout va bien. Il sait ce qu'il veut, elle sait ce qu'elle veut. Il y a des périodes où on est en chaleur, il y a des périodes où on n'est pas en chaleur. Il y a des périodes où la femelle, elle va chercher un mâle pour la féconder. Tout va bien, Madame la Marquise. Aval shalom, c'est ma choix. Et pourquoi c'est ma choix? Et bien simplement parce que l'homme, il a trois dimensions de vie. La femme aussi. L'homme, il est soit Zachar, et il est appelé dans la Torah Zachar ou Nekeva Baraotam, ou alors il peut être Ish. Ou alors il est Adam. Trois appellations dans le début de la Torah. Zachar, Ish, Adam. Chava également. Elle est Nekeva, Isha ou Chava. Et le problème, c'est que chacune des dimensions reflète autre chose. Zachar ou Nekeva, c'est biologique. C'est-à-dire, c'est le lien comme celui des animaux. Ish ve Isha, c'est déjà la compréhension intellectuelle que l'un est le féminin de l'autre. Ce n'est plus seulement biologique. Ça se passe là. Adam et Chava, c'est au niveau de la Neshama. Et donc, c'est le balagan. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des couples où ça ne se passe pas bien entre eux. Peut-être que ça existe, je ne sais pas, de manière théorique. Des couples où ça ne marche pas. Peut-être que c'est parce que lui, il veut une relation de Zachar ou Nekeva. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement une relation physique. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'était une relation intellectuelle. Forcément, ça ne marche pas. Lui, il est en mode Zachar. Elle, elle est en mode Isha. Ou alors peut-être que elle, ce qu'elle veut, c'est une relation intellectuelle. Mais lui, il veut une relation nishmatite, au niveau de la Neshama. Elle, elle est Isha. Lui, il est Adam. Ça colle pas. Si les deux, ils veulent une relation physique, ça collera. Jusqu'au moment où ils voudront plus. Si c'est que intellectuel, ça collera. Si c'est nishmati, alors on est au top. Mais ça veut dire, on dire qu'on a compris qu'il y a chez elle quelque chose qu'il n'y a pas chez moi, et chez moi quelque chose qu'il n'y a pas chez elle. Et c'est quoi cette chose-là? Qu'est-ce que Adam dit lorsqu'on lui présente Chava? Le verset nous dit Zot apa'am etzem me'atzamai ou besar mi besar. C'est-à-dire que cette fois, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. En d'autres termes, il y a deux dimensions. Il y a etzem et il y a basar. Qui est qui? Est-ce que Adam il est etzem et Chava il est basar ou inversement? C'est très simple. Dans la mesure où à la fin du verset on nous dit que pour finir l'opération de ce que Akadosh Baruch Hu a pris à Adam, va yisgor basar tartena, il a remis basar à la place. Donc ça veut dire que ce qu'il lui a pris c'était principalement basar. Donc ça veut dire qu'on a ici deux dimensions fondamentales. L'homme avec un grand H il est plus etzem et la femme avec un grand F elle est plus Bassar. Ma Kavana. C'est très simple. On dit Manitou. Le Etsem, l'os, le squelette, son rôle, c'est d'apporter de la structure. Le Bassar, son rôle, c'est d'apporter la capacité de ressentir. Le masculin, et on ne parle pas ici de monsieur ou madame, la notion masculine est plus là pour apporter de la structure, et la notion féminine est plus là pour apporter le sentiment, le ressenti. Mais si on sépare les deux, et que lui n'est que ça et elle n'est que ça, il n'y a pas de hachlama. Et donc, chez le ish, il va y avoir un peu de isha, et chez la isha, il y aura un peu de ish. Zot apam etzem me'atzamay ou besar mi besari. Mais je comprends que j'ai besoin ce que elle, elle représente, que j'ai pas moi, et elle a besoin ce que moi j'ai, ce qu'elle n'a pas. Comment ça s'appelle dans le langage du Talmud, ce que lui il a, que elle, elle n'a pas, et ce qu'elle a, que lui il n'a pas? Eh bien, le Talmud va nous dire très simplement: Im ein bina en dat. Veimen dat en bina. D'un autre côté, bina yetera natan baisha. Venashim da'atan kala. Donc on nous dit trois phrases dans le Talmud. Que d'un côté, les hommes sont plus dat que les femmes. Que les femmes sont plus bina que les hommes. Encore une fois, on ne parle pas de hommes et femmes en temps, en mode monsieur et madame. La dimension masculine face à la dimension féminine. Au niveau de la chokhma, je vous rassure, c'est pareil chez tout le monde. Ça, il y a gam nashim chachamot, et gam gvarim chachamim, kol tov. Mais la notion de bina, c'est quoi bina? C'est le discernement. Eh bien, cette faculté-là est plus présente dans la notion féminine. Et la notion de date, c'est-à-dire de ne faire plus qu'un avec la chose, d'après la possibilité de prendre la décision que cette fois c'est comme ça et pas autrement, est plus présente dans la dimension masculine. Encore une fois, ça peut être présent chez une dame comme ça peut être présent de l'autre côté chez un homme. C'est pas la question. Vous comprenez qu'il y a ici deux dimensions qui doivent se réunir. La nessira, le fait qu'on est séparé, c'est pour qu'ils se retrouvent. Et lorsqu'ils vont se retrouver, ben, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils vont se retrouver, est-ce qu'ils vont être deux ou est-ce qu'ils vont être plus? Il y a Ish, Isha, ils vont se retrouver, ils vont se marier. Est-ce que maintenant, de 1 plus 1, ils forment 2 ou ils forment plus? Alors voilà, les romantiques, ils disent que Echad va Echad, ça fait 1. Mais c'est terrible, ça veut dire qu'il y en a un qui est mort en chemin. Quoi? Vous étiez 2, maintenant il n'y en a plus qu'un. Et en général, c'est elle.
Hein?
C'est triste, hein? Tu sais, il y a une phrase en hébreu, je sais pas, tu parles hébreu? Un petit peu? Khatsi, khatsi, comme ça. Il y a une phrase en hébreu, on dit Ani met alay.
Je suis mort de toi.
C'est, littéralement, ça veut dire ça. Je suis mort de toi. En gros, ça veut dire je te kiffe trop.
Mais, on dit en français aussi.
Ah, on dit hein, je meurs d'amour pour toi.
Ouais, ça dépend.
Ah, au-delà du slang, ça veut peut-être dire quelque chose. Si tu as l'impression que pour être ensemble, il faut la mort de l'identité de l'un par rapport à l'autre, c'est grave. Si tu me dis que 1 et 1 ça fait 2, c'est Hamoud, mais en même temps on n'avait pas besoin de se marier à ce moment-là, on était pareil. Eh oui, il y a quelque chose qui nous dépasse. Une fois qu'on se réunit, on a réussi à dévoiler autre chose. Alors Rachid va te dire c'est le bébé qui va naître. Ça a l'air, mais au-delà de ça, vous avez déjà été à un mariage juif? Qu'est-ce qu'on met au-dessus du fratané de la Kala? Une choupa. Comment ça, choupa? À choupa, c'est justement ce qui vient dévoiler qu'il y a quelque chose au-dessus. Ce couple-là, c'est plus seulement lui et elle. Zemashéou Acher. Comment ça s'appelle? Shrina Benem. Zahou Shrina Benem. C'est-à-dire que ensemble, parce que lui va réussir à compléter elle et qu'elle va réussir à compléter lui, alors ils arrivent à la Hashlama. C'est ce que disait Manitou à propos des mariages. Il disait, c'est quand même incroyable. Dans les mariages, tout le monde est content. Pourquoi tout le monde est content dans une koupa? Il dit parce que c'est le seul moment où Olam Hazeh, où Gam Yetzer HaTov et Gam Yetzer HaRa rotim otodava. Il n'y a plus de débat. Le but, c'est l'Hashlim. Et pour, on est devant l'Hashlemout. Alors, très bien. Alors, c'est facile, alors. Alors, je vous propose que, directement, on organise Shidduchim ce soir et mariage demain matin. C'est facile. Cachez Zivudo, Zivugo chez la dame. Tu la connais, la phrase, hein? Qui est créée à Tiamsouf. Cachez Zivugo chez la dame, qui est créée à Tiamsouf. Marquez dans la grande, dans la salle de Sota. Chef, deux secondes. On s'est posé la question. Oui, tu veux dire un truc? On s'est posé la question sur cette phrase, deux secondes. Bébête? Cachez Bichfilmi. On dit c'est dur, le zivouk de l'homme, comme l'ouverture de la mer Rouge. Mais de qui on parle? Caché pour qui? Pour Dieu? Levanti, c'est dur pour Dieu d'ouvrir la mer Rouge? Bébête, c'est une chorale. C'est l'eau cachée. Dieu qui a créé la mer, il ne peut pas l'ouvrir. Mais c'est vrai qu'il peut l'ouvrir, la mazaya cachée.
C'est contre nature.
C'est contre nature, et ça dérange Dieu qui a mis en place la nature. Là, tu dis, il y a kriya. Et kriya, c'est quelque chose de négatif. Parce que j'ai mis en place la mer, donc ça m'embête de devoir l'enlever. Mais c'est pas caché.
Mais c'est pour l'homme de croire que ça peut exister, d'avoir la même couleur.
Quoi? À l'époque des miracles, où ils ont vu les 10 plaies il y a deux secondes?
Ils voulaient repartir en Égypte, tellement ils y croyaient pas que ça allait se
faire. Non, mais deux secondes. Mais c'est pas dur de croire dans des miracles, ils en ont vu plein il y a deux secondes. Et là, Dieu, il peut faire comme ça, il ouvre la mer, on est d'accord? Pourquoi il ne l'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a attendu? Que Narshon Ben Aminadab, il avance. C'est à la mer, il peut l'ouvrir quand il veut. Mais il a tout simplement envie d'attendre que l'homme y participe. Tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Que le but, c'est que l'homme y participe à la Hashlama. Cachez y vous gauche à la dame qui est à Tiamsouf. Allez, Zekali. Moi, j'ai fait sortir une voix dans le ciel 40 jours avant la naissance. Et j'ai dit, bat ploni, li ploni. C'est pas shoot. Et maintenant, ça va dépendre de qui? Ben, ça va dépendre de l'homme. C'est vrai pour Kriyat Yam Souf, c'est vrai pour le Zivou. La Hashlama, la volonté de perfectionner le monde, c'est la mission, le propre de l'homme, Baolam Hazeh. Manitou explique que le premier et le deuxième chapitre du livre de Bereshit ont comme rôle numéro un de faire prendre conscience à l'homme qu'il a un rôle à jouer dans le perfectionnement du monde. Matam patach bebereshit, le Bezena Amod. Matam patach bebereshit. Vous connaissez la question de Rashi? Question fantastique, la première Rashi de la Torah. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Matam patach bebereshit. Pour une fois qu'il y a un livre qui commence avec le début, tu poses la question, pourquoi tu as commencé au début? Elama. Qu'est-ce qu'il propose Rashi? Au nom de son père? Hein? La Mitzvah de Rosh Chodesh. Pourquoi? Donc ça veut dire que Rashi te dit, j'aurais pu penser qu'en fait ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on fait? Mitzvah. Amaasim. Et donc non. Matam patar bebereshit, ki koach maasa vigid lehamo, la tête lahem nachalat goyim. C'est pourquoi on a commencé par Bereshit, pour que tu saches qui on est. Tout le livre de Bereshit, il a pour rôle de nous apprendre qui on est pour qu'on puisse l'Hashlim et Abria. Comment on va l'Hashlim? Avec les Maasim, Sefer Shmot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Mais d'abord et avant tout, qui on est? Et ça doit être la première question qu'on se pose quand on se lève le matin. Mi Ani. Tu poses cette question? Qui je suis? Mais ouais, c'est l'acte de là. Vous savez comment on dit je en hébreu? Je. Ani. Ça veut dire quoi, Ani en hébreu? Me dites pas je. Qu'est-ce? Hein? À An, Sheli. Mon endroit, ma direction, mon makom, mon kivoun. Ce que moi, je vais pouvoir l'Hashlim Baola. Donc c'est pour ça que je voulais commencer notre étude sur la Torah de Manitou par ce sujet-là, Dafka. Parce que sans ça, il n'y a rien d'autre. si tu n'as pas compris que notre rôle, Zela Ashlim et Taolam, je ne pourrais pas le faire tout seul, donc j'ai compris l'importance de Ish Veisha. Ah ouais, mais attendez, si j'ai compris tout ça, alors c'est vrai au niveau de l'individu, Ish Veisha. Ah ben on a dit qu'il y a une étape au-dessus de Ish Veisha. Il y avait Zachar ou Nekeva, Ish Veisha. C'est quoi l'étape au-dessus? Adam Vechava. C'est bizarre. Si c'est Adam, alors c'est qui son féminin? Adama. Nous dit le prophète Yechezkel, Atem Kruim Adam, Venu Mota Olam Kruim Adam. Anachnu Am Israël, Kruim Adam. Donc c'est qui notre Kala? Eretz Israël. Adama. C'est bizarre, hein? Les Français, ils n'appellent pas la France leur bien-aimé. La mère patrie. Ou alors le Vaterland en Allemagne. Motherland aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une relation de parent à enfant. Alors que entre le peuple juif et la terre d'Israël, il y a une relation de Zougiout. Adam, Adama, Vartziti Baël, comme marqué dans le livre de Hoshéa. Il y a une dimension de Khatan Vekala. Et donc, lorsque finalement Adam Vechava vont se retrouver, c'est quand? Quand est-ce que Adam rencontre la dimension de Chava? Seulement après la faute. Bizarre. Pourquoi il y a eu cette histoire de faute, une espèce de pomme qui n'était pas une pomme? Pourquoi il y a eu la faute? Allez, venez, on fait un. Vous savez, aujourd'hui, c'est très, très. C'est très trend dans les chaînes YouTube et tout. On fait un what if. Qu'est-ce qui se serait passé si on réimagine l'histoire. Venez, on change un détail de l'histoire et il n'y a pas la faute. C'est quoi le détail? Quoi le serpent? Tu l'enlèves de l'histoire, trop facile. Alors, tu le serves. Ah, tu dis Chava, elle a peur, elle tue le serpent. Direct. Ah! Ou alors, qu'est-ce qui a manqué dans l'histoire? Allez, dites-moi le truc qui manque dans l'histoire.
La parole.
La parole. Ça arrête de parler. Quoi? Chava parle au Nahaj, Nahaj il parle à Chava.
Non,
ah. Adam et Chava, ils n'ont pas parlé. S'ils avaient parlé, ça aurait été vite réglé. Mais ils ne pouvaient pas lui parler. Parce que jusqu'à présent, elle ne s'appelle pas encore Chava. Ce n'est qu'après qu'il va l'appeler Chava. Jusqu'à présent, elle était Isha. Ça ne peut pas marcher. Et donc, il l'appelle Chava. Mais attendez deux secondes. Chava? Ça veut dire quoi, Chava? Chava?
Existence.
Existence? Là?
L'expérience.
Chava, ça veut dire l'expérience? Ah, tu dis aujourd'hui, les Chavot, la Chavot, en hébreu. Bien fait. Mais c'est de l'hébreu moderne. Et Lama? Mais c'est marqué, hein? Pourquoi il l'a appelé Chava? Qui aïta? Em kol chai. Elle est la mère de toute vie. Donc il aurait dû l'appeler?
Chaya.
Nachon. Dit Manitou, avec l'enseignement de la Kabbalah. Là-haut, elle s'appelait Chaya. Aval, il a fallu la faire descendre ici, la vie. Et donc le Yud, il s'est allongé. Et il est devenu Chava. Aha. Sauf que le mot Chava devient une racine. La racine de quel mot? La racine d'un mot qui sera employé beaucoup plus tard par un des descendants d'Adam et Chava. Voilà, je me suis spoilé moi-même. Avec Abraham. Abraham, il va dire à qui veut bien l'entendre que lorsqu'il prend son fils pour aller sur la montagne, il dit Venishtachave Venashuva Alechem. Le mot Leishtachavot qu'on traduit nous par se prosterner, la racine de Leishtachavot, c'est Chava. Car en fait, lorsque tu vas à l'époque du Bet Amigdash au Bet Amigdash et que tu t'allonges complètement en mode Pishut Yadaim Veraglaim, c'est-à-dire tu es en mode Superman, la prosternation de base, c'est pas comme nous on fait à Kippour, où on ressemble à nos amis musulmans. En relevant notre tour Esclapemala, la vraie prosternation de base, c'était en mode Superman à la Ritzpa. Et là, tu dis quoi ? Là-bas, je ne suis plus rien. C'est pour ça que je peux puiser toute la vie. Zeloani. Zachaim. Ça, c'est Chava Imen. Adam vechava. Adibour qui va permettre à l'homme d'amener la vie. C'est ça le rôle de toute la création. C'est ça qui va nous permettre d'arriver à la Hashlama. Et une fois qu'on sera arrivé à la Hashlama, alors on pourra reprendre le Sefer Torah, tremper le koulbous, la plume, dans l'encrier, faire silence tout le monde, à tous les mecs qui sont là, et demander à ceux qui sont déjà en train de manger les petits fours d'arrêter. Et là, on pourra marquer dans le Sefer Torah « Vayar Elohim Kitov » Vayu, non, c'est pas Vayu Kedoshim, on aura atteint la dimension de Kedusha. Vayar Elohim Kitov, Vayi Erev, Vayi Voker, Yom Hashemi. Voilà le rôle de toute la Torah de Manitou, de nous permettre d'arriver à cette dimension-là. Et nous, on va essayer ensemble cette année, de thème en thème, d'arriver à ça. Chazak ou Baruch.